Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Parle à nos cœurs Seigneur en cet instant, alors qu'on ouvre ta parole Seigneur, que tu puisses nous donner un mot de toi, une différence par rapport à une lecture qui serait habituelle. On veut juste un mot du ciel. Envahis nos âmes de ta présence Seigneur, maintenant, cet instant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver. Est-ce que vous allez bien? On a un beau temps, on ne croirait même pas en mars, là. Mais encore mieux que ça, on a ensemble quelque chose à voir, quelque chose de bon, quelque chose qui vient de la Bible. Je voudrais te poser une question comme le thème d'aujourd'hui. Est-ce que tes proches, est-ce que tes amis, tes collègues dans ta famille, ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent t'identifier comme chrétien, comme chrétienne? Qu'est-ce qui te caractérise, qu'est-ce qui leur permet d'affirmer que tu es chrétien? À quoi reconnaît-on un chrétien, une chrétienne? Enfin, c'est plus simple pour un musulman, parce qu'un musulman, comme l'islam le dit, les cinq piliers, premièrement, il y a une attestation de foi qu'il n'y a pas de vraie divinité sauf Dieu et que Mohammed est son messager. Pour un musulman, il faut en plus qu'il accomplisse la prière. Troisièmement, qu'il s'acquitte du zakat. Quatrièmement, qu'il respecte le jeûne, le mois du ramadan. C'est souvent là où tes collègues musulmans, tu arrives à les identifier. Et cinquièmement, un pèlerinage à la Mecque de temps en temps. Donc les musulmans, il y a cinq choses qui caractérisent. Et s'ils respectent ça, on dit « Ah, toi, tu es un musulman ». Alors si vous avez un ami, un collègue qui est juif, vous le voyez un petit peu vivre, s'il respecte le Shabbat, s'il y a une kippa, la circoncision pour les hommes, le mikvé pour les femmes, il y a des signes qui indiquent que cette personne est juive, des signes extérieurs. Vous savez que être juif, c'est une confession, et il y a 613 commandements à respecter. Bon, voilà, normalement, vous devriez être capable d'identifier quelqu'un qui respecte ça. Alors, comment vos amis, vos proches, ou des fois, ceux qui ne vous aiment pas trop, reconnaissent que vous êtes chrétien, chrétienne. Qu'est-ce qui est votre symbole, votre signe? Quelle marque fait que vous êtes chrétien? Ne me dites pas que c'est une petite croix. Parce que ça, ce n'est pas marqué dans la Bible. On peut avoir une croix huguenote ou puis une croix en bois. On peut être un prêtre et mettre comme une croix métallique sous forme d'un pin's là sur le côté. Ce n'est pas ça qui fait de vous un chrétien pour autant. Alors, qu'est-ce qui fait de vous un chrétien? Quel est le symbole, le signe intérieur qui permet de dire, lorsqu'on vous croise, c'est un chrétien? Les gens peuvent dire de vous, « Ah, je sais que c'est une chrétienne. » Parce que... Me dites pas que c'est une question de look, que c'est une question de taille des cheveux, que c'est elle est chrétienne parce qu'elle a une jupe longue, que c'est par une histoire de maquillage, que c'est un homme parce qu'il y a une certaine vocabulaire. Les autres religions aussi. Et en plus, ce n'est pas dans la Bible, tout ça. Alors là, si on commence à appliquer des lois, on est juste une religion. Qu'est-ce qui est le symbole, la preuve que tu es chrétien? Jésus dit, alors que c'est son dernier moment, il est à quelques heures de mourir la mort atroce de la croix, il n'a que quelques paroles à dire et il choisit de réunir ses plus proches amis. Et à table, lors du souper, il leur dit, « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais, mais je vous donne un commandement nouveau. » Ah, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La seule chose que ta collègue doit retenir pour savoir que tu es chrétienne, c'est que tu ne parles pas comme les autres. Je ne parle pas de ton vocabulaire, je ne parle pas de l'histoire de gros mots ou tout ça. Non, je parle de ta façon dont tu parles des autres. Elle doit reconnaître en toi une touche différente qui fait que tu es quelqu'un qui aime les autres. Tes enfants, ne croiront pas que tu es un chrétien évangélique ou je ne sais pas quoi parce que tu le dis, ou bien parce que tu viens le dimanche à ce culte. Ils le croiront s'ils voient la façon dont tu traites ta femme, la façon dont tu les traites eux. Et s'il y a de l'amour les uns pour les autres, la façon dont tu parles de ton église, la façon dont tu parles de tes collègues, la façon dont tu parles de ton patron, la façon dont tu parles de... la façon dont tu te comportes en voiture lorsqu'il y a quelqu'un qui te fait une queue de poisson, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il y a un signe que je voudrais vous apprendre, c'est le signe d'Antioche. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans le livre des Actes, au chapitre 11, si vous le prenez avec moi, Actes 11, ça sera notre travail pour aujourd'hui, d'être dans ce chapitre-là, Actes 11, au verset 26. « Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église, ils enseignèrent beaucoup de gens. » C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est-à-dire, chrétien qui est un diminutif de Christ, ça veut dire les petits Christ. Ils se comportaient comme des Jésus. Alors on va leur donner un surnom et les gens de ce monde vont les appeler eux. Ils sont comme Jésus, ce sont des chrétiens. Ils viennent de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'on a dit ça à Antioche ? Alors, il y avait d'autres églises qui existaient avant. Il y a une église à Jérusalem. Il y avait une église à Damas. Il y avait une église peut-être dans certaines provinces de l'Empire romain qui ont pu naître avant l'église d'Antioche. Mais c'est à Antioche, parce qu'il y avait un signe intérieur dont je voudrais vous parler ce matin, qui a démontré à tous... Eux, ce sont des chrétiens. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a deux choses que je veux voir avec vous ce matin. L'Antioche est une église où la grâce de Dieu est à l'œuvre. C'est une église caractérisée par l'amour et la grâce. C'est une église de grâce, remplie de grâce. Et le deuxième point que l'on verra, parce que vous savez, des fois, quand tout va bien, c'est possible d'être rempli de grâce et de bonté. Tant que tes enfants sont faciles à vivre, que ton conjoint est facile à vivre, c'est facile d'aimer. Et puis il y a un jour où tu es testé. Un jour où la grâce, elle est difficile à appliquer. Et c'est le deuxième point que l'on verra. La grâce à l'épreuve. Et pourquoi, à la fin de ce test, les gens de ce monde vont dire, certainement, on reconnaît en eux qu'il y a quelque chose qui fait d'eux des petits Christ, des chrétiens. Et là, on verra si toi-même, tu portes ce signe de chrétien. Vous savez, l'église d'Antioche est une église qui ressemble un petit peu, on a pas mal de points communs, alors ça me fait bizarre de prêcher sur ce texte. Mais si vous voulez bien, on va ouvrir au verset 19, juste toujours dans ce chapitre 11, on va lire un petit peu la construction de l'église d'Antioche. Les disciples qui s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, mais ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Waouh ! Normalement, vous aviez le droit de dire amen, mais bon, c'est absolument pas obligatoire. Vous voyez, cette église, elle a une caractéristique étonnante, c'est que c'est une église dont les individus précédemment ont beaucoup souffert, individuellement. C'est une église recomposée d'individus qui ont souvent tout quitté pour y arriver. Parce qu'il est dit qu'à la base, ceux qui sont arrivés à Antioche, ils sont venus à Antioche parce que Dieu leur a permis quelque part de trouver refuge dans cette ville, dans cette église d'Antioche. Mais à la base, ils ne venaient pas de là. Certains nous ont dit venaient de Cyrène. Cyrène, c'est tout le nord de l'Afrique, la Cyrénaïque. Peut-être des Africains aussi ce matin. Et vous avez été déplacés, vous arrivez dans un pays qui n'est pas tout à fait... le continent duquel vous venez. Mais je vois aussi, parce que je sais qu'il y a des Guadeloupe, Martinique, il y a des îles de la Réunion aussi. qu'il y en avait qui venaient de Chypre, une île. Et quand on vient d'une île, il y a une mentalité de l'île, on est d'accord? Chaque île développe, regardez les Corses, on les aime les Corses, mais eux, ils aiment surtout les Corses. Quand on vient d'une île, il y a quelque chose qui se passe. Et à Antioche, c'était une église, franchement, c'était pas gagné que ça allait marcher. Parce qu'il y avait déjà un choc culturel entre des Chypre, c'est de, en gros, c'est plutôt des Grecs, alors que la Cyrénaïque, c'est des Africains. Alors que des Grecs et des Africains arrivent à louer Dieu ensemble, c'était pas gagné. En plus, avec une mentalité des îles par rapport à une mentalité du continent, ils se retrouvent tous au moment. Ils ont un seul point commun. Ils ont perdu leur maison. Ils ont quitté leur village. Ils ont quitté leur famille. Et ce sont quelque part une diaspora d'immigrés dans une terre qui n'était pas leur terre d'origine. Et à Antioche, ils vont se réunir. Ils ont un seul point commun à part le fait d'être déracinés. C'est qu'ils disent « On aime Jésus ». Maintenant, on va parler de Jésus. Mais à qui on va parler de Jésus? Alors certains, vous voyez, on dit, on va parler de Jésus aux Juifs. Pourquoi ils ont voulu parler de Jésus aux Juifs? Parce que les Juifs, quelque part, avaient un respect de la loi et beaucoup d'eux étaient Juifs. Une partie de ceux qui venaient à Antioche avaient une origine, un background, une histoire personnelle de respect de la loi. Le Shabbat, on ne mange pas n'importe quoi, on ne mange pas de cochon, on mange, c'est pas bien. On mange cachère, on est sérieux. Et ça me fait penser à notre église ici. Vous savez qu'en région parisienne, il y a des églises où c'est plus strict que d'autres, vous êtes d'accord? Si je vous demande si vous avez visité 3-4 églises, vous voyez un petit peu les différences. Il y a des églises plus strictes. Ben, il y avait des chrétiens qui, lorsqu'ils arrivaient à Antioche, avaient une histoire et un respect de certains commandements qui étaient plus stricts. Regardez l'apôtre Paul, il a dû négocier entre ceux qui respectaient ou pas le Shabbat. Je ne vais pas faire tout ce qui peut nous différencier, nous, ce matin. Mais en fonction que vous veniez d'une église baptiste, d'une église pentecôtiste, d'une église indépendante, d'une église catholique, d'une église... Vous arrivez tous avec vos règles à vous. Et pour certains, vous êtes très rigoureux. Et vous avez une vision très rigoureuse de la foi. Et vous savez, Dieu vous aime. Et Dieu bénit tous les efforts que vous avez faits, tous ces aspects de foi, mais aussi de religion que vous avez. Tel respecte les jours. Tel respecte le fait de ne pas manger de certaines choses. À l'église de Jérusalem, ceux qui venaient de Jérusalem, ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Pas de viande sacrifiée aux idoles, pas de etc. Alors que ceux qui venaient peut-être de Chypre, eux, étaient un petit peu plus laxistes là-dessus. Ils mangeaient un peu de tout, ils avaient le droit de manger au porc. Pour les agapes à Antioche, ça devait être quelque chose. Les repas en commun à Antioche, ça devait être quelque chose. Qu'est-ce que tu sors là? Oh, dis donc, c'est du cochon, ça? Moi, je ne peux pas faire ça, moi. Les débats qu'il devait y avoir, eh ben non, justement. À Antioche, il y avait une caractéristique, c'est qu'il y avait de la grâce les uns envers les autres. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la bonne nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata que la grâce de Dieu avait accompli des choses extraordinaires. Il fut rempli de joie. En fait, cette église, elle est caractérisée par l'amour qu'ont les gens les uns pour les autres. Et ce n'était pas gagné. Parce que les Antillais sont devenus copains des Africains, qui sont devenus copains des blanchouillards comme moi, qui sont devenus copains d'autres. Et il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas gagné du tout au départ, et qui se passe à Antioche. Oui, mais ils ont tous besoin de quelque chose, et c'est ce que Barnabas va leur dire. À son arrivée, donc, il les encouragea, tous les croyants, à rester fidèles au Seigneur, avec une ferme assurance. Barnabas, donc c'est leur pasteur qui est arrivé, était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Et c'est peut-être là toute la qualité. Le but n'est pas qu'ils s'attachent à Antioche. Le but n'est pas qu'ils s'attachent à Barnabas. Mon but n'est pas que vous attachiez à Créteil, ni que vous attachiez à Yvan ou à un tel pasteur ou à un tel pasteur. Mon but, c'est que vous attachiez au Seigneur. Parce que sinon, on va se diviser. Les Antillais vont dire « Ah, moi je suis plus proche de tel leader de louange parce que il fait ton style de musique en fait. » Mais attache-toi au Seigneur. Moi je suis proche d'un tel... Oui, mais attache-toi au Seigneur. Et Antioche, ça a marché et le Seigneur devait se réjouir. Alors du coup, Dieu a mis une double grâce et c'est l'église qui grandissait le plus. L'église d'Antioche, elle a grandi. Et quand l'église grandit, eh ben, le pasteur, il est très heureux, mais très malheureux. Enfin, il est très heureux parce que ça grandit et il voit qu'il y a la grâce de Dieu. Et Barnabas, il est en fête, il se dit « Alléluia, je suis émerveillé de ce que Dieu fait. » Et moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis émerveillé de ce que Dieu fait. Mais la croissance a un inconvénient, c'est qu'il faut qu'il y ait plus d'aide. Alors à Antioche, Barnabas va devoir aller chercher un pasteur stagiaire, il va devoir chercher un pasteur associé, un adjoint. Or, ça, ce n'est pas facile parce que quand l'Église grandit, on a tous peur du changement, que ça ne soit plus comme avant. Vous êtes d'accord? Quand vous aimez bien quelque chose, et si on vous dit, on va faire évoluer, ah ben c'était déjà bien, pourquoi on fait évoluer? Et à Antioche, Barnabas a dit, je vais aller chercher quelqu'un pour faire grandir cette Église, pour accompagner la croissance. Mais, c'est le deuxième point, si c'est une Église de la grâce va être mise à l'épreuve. On va voir s'ils sont vraiment remplis d'amour les uns pour les autres. En fait, ils ont un point commun, ils ont vécu un drame en commun. Beaucoup de ceux qui sont arrivés à Antioche ont vécu la première persécution, qui est la persécution liée à la lapidation d'Étienne. Vous savez ce que c'était ça? Vous connaissez ce qui s'est passé dans le livre des Actes, au chapitre 6, au chapitre 7. Il nous est parlé d'Étienne. On peut tourner un petit peu notre Bible au chapitre 6. Au tout début de l'Église, il y avait un premier réveil. Ça ressemblait à Antioche. Et le Saint-Esprit a mis à part quelqu'un qui s'appelait Étienne. Verset 8, Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine. Il accomplissait des grands prodiges, des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors les membres de la synagogue, dite des affranchis, composés de juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Là-dessus, ils payèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu !» Et ils ameutèrent ainsi le peuple et les responsables du peuple, les spécialistes de la loi. Survenant à l'improviste, ils s'emparèrent d'Étienne et l'amenèrent devant le grand conseil. Et ils vont mettre en procès Étienne. Mais qui sont les accusateurs d'Étienne? Qui, nous dit le texte? Quelles sont les personnes qui étaient aussi en colère contre le chrétien qu'est Étienne? Certains intégristes juifs, plus précisément des membres de la synagogue dite des affranchis. Tiens, c'est étonnant. Et en fait, ce n'est même pas des juifs de Jérusalem. C'est des juifs qui viennent de Cilicie et de certaines provinces de l'Empire romain et qui, en fait, sont fous de rage contre Étienne, alors qu'eux-mêmes, il y a quelque temps, ont été persécutés, étaient esclaves de l'Empire romain et ont été libérés, ils ont été affranchis et ils se sont regroupés dans une communauté de la synagogue des affranchis. Ce que je voudrais vous dire, c'est que des fois, avoir été blessé vous rend amer. Avoir été victime de persécution vous rend vous-même violent si vous ne laissez pas Dieu changer votre cœur. Et en fait, les souffrances que ces juifs esclaves avaient connues, ils les ont condensées pour créer un intégrisme juif. Parce qu'ils n'ont pas laissé la grâce de Dieu les remplir. Et du coup, ils sont en colère quand ils entendent Étienne. Et Étienne va leur dire, mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Dieu a vous envoyé des prophètes et vous avez été obstinés, vous avez refusé de croire, etc. Au verset 54 du chapitre 7, il est dit à ces mots, « Ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert !» et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Il y avait des faits de foule terribles. Ils le traînèrent hors de la ville, le tuèrent à coups de pierre. C'est une lapidation directe. J'étais au Canada la semaine dernière et Claude Houde me disait que lorsqu'il était en visite dans un pays africain, il assistait à une terrible scène en direct de lapidation. Il dit, je ne pourrai plus jamais relire la Bible pareil, je ne pourrai plus jamais relire l'histoire d'Étienne pareil, parce que je l'ai vu de mes yeux. À l'autre bout du marché, il y a eu un attroupement, parce que quelqu'un a crié, « Au voleur, au voleur !» Et ils ont commencé à faire un cercle autour de celui qui avait été pris en flagrant délit. Et alors qu'il y avait un brouhaha, un tumulte qui montait dans cette foule, de cette capitale africaine, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a commencé à prendre une pierre et qui a jeté une pierre sur le voleur. Et le voleur est tombé par terre. Il me dit, et tout d'un coup, en quelques secondes, la foule était en transe, la foule était fanatisée. Ils ont commencé à marcher dessus, à lui donner des coups, ils ont commencé à le frapper, ils ont commencé à jeter des pierres. Aujourd'hui, on a vu ça en Centrafrique, il n'y a pas longtemps. Et cet homme-là, disait Pasteur Claude, on ne pouvait absolument rien faire. La foule était compacte, il n'y avait aucun moyen d'aller le sauver. Et quand la patrouille de police est arrivée, c'était bien tard, ils l'ont traîné. Mais il dit, je ne crois vraiment pas qu'il soit sorti de cela. Il dit, mais tu ne peux pas savoir, Yvan, comment c'était long, comment les pierres. En fait, tu entends le bruit. C'est-à-dire que là, on lit un texte, c'est froid, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais là, vous entendez les eaux qui craquent, etc. Bon, il y a des jeunes ce matin, je ne vais pas développer, mais c'est épouvantable et c'est lent. Et ça prend du temps. On ne meurt pas comme ça en un instant. Et Étienne, lorsqu'il est en train de se faire massacrer, les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul de Tarse. Tarse est la capitale de la Cilicie. Or, je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui étaient les plus fanatiques, les plus intégristes, c'était ceux qui venaient justement des différentes provinces de l'Empire romain. Donc, Paul faisait partie de ces intégristes, ces fanatiques. Et il est là et il approuve, il valide. Je pense qu'il y a des vêtements, vous voyez, il y a peut-être les vêtements de ceux qui sont en train de jeter les pierres, mais il a peut-être ramassé les vêtements d'Étienne aussi derrière, qui était immaculé de sang. Et pendant qu'il jetait des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, il disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, il lança un dernier cri, dit « Seigneur, ne leur demande pas compte ». Ne leur demande pas compte de ce péché. Waouh, quel chrétien. Après avoir dit ces mots, il expira. Saul avait donné son approbation, c'est le chapitre 8, verset 1er, à l'exécution d'Étienne, et à partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem, et tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Donc ils sont en train de fuir un loup. Et parmi les croyants, il y en a qui partent, ils partent en Judée, ils partent en Samarie, il y en a qui partent à Damas, que Paul va aller le chercher, d'ailleurs, il va les poursuivre jusqu'à Damas. Et c'est sur le chemin de Damas, d'ailleurs, qu'il va rencontrer Dieu. Puis il y en a d'autres qui vont encore un tout petit peu plus haut, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Damas. On est toujours en Syrie, on est dans la ville d'Antioche. Et là, ils vont se réfugier un petit peu plus haut. Sauf que Antioche est pris en tenaille entre deux villes. La ville au nord, en Turquie, qui s'appelle Tarse, capitale de Cilicie. Et Damas, où là, déjà l'apôtre Paul est en train de monter. Il est déjà sur la route de Damas. Je ne sais pas si les chrétiens d'Antioche ont appris un jour, mais qu'à Damas, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Le fou furieux, qui était Saul de Tarse, qui était venu avec des lettres pour emprisonner, pour séparer les femmes, les enfants, les maris, pour mettre à mort, pour diviser, pour détruire. Il a rencontré Dieu. Ça, c'est le bruit qu'on a entendu dire. Il a rencontré Dieu, et même qu'il témoigne dans certaines synagogues à Damas que maintenant, il accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais bon, ça, c'est ce qu'on dit. Hein. On ne sait pas trop, parce que depuis, il est retourné à Tarse. Et puis, alors, on prend le texte du jour. Regardez. On est dans Actes 11, verset 25. Ça se passe un dimanche matin, ou en semaine, je ne sais pas, mais pour une réunion. On est dans l'église d'Antioche, cette église dans laquelle peut-être certains ont dû tout quitter, abandonner leurs frères, leurs pères, leurs fils, qu'ils ont dû laisser peut-être à Jérusalem, qu'ils ont dû laisser à Cyrène, qu'ils ont dû laisser à Chypre. C'est tous des immigrés qui ont dû se recomposer et qui ont appris à s'aimer, à se supporter. Et ils sont tous dans cette même atmosphère de dire « Seigneur, on veut que la grâce de Dieu soit là ». Ils ont tous beaucoup de blessures. Et un dimanche matin, le pasteur Barnabas a une idée hallucinante. Il leur dit « Je vais vous présenter le nouveau pasteur associé de l'église d'Antioche, roulement de tambour, faites entrer Saul de Tarse, verset 25. il leur amène comme pasteur le fou furieux qui a détruit leur famille. Et il y a dû avoir un de ces silences dans la salle. Certains ont dû peut-être se remémorer celui qui les avait séparés de leur famille. Certains ont dû se dire, mais c'est lui là. Mais lui, c'était lui qui gérait, qui organisait l'exécution de Étienne. C'est lui qui gérait, c'est lui qui servait d'eau vestiaire. Lorsqu'ils ont écrasé notre frère. Et c'est lui que tu nous amènes comme pasteur associé. Comment vous réagiriez-vous si une personne qui vous a tout pris, qui vous a blessé, qui vous a humilié, peut-être vous avez réussi à lui pardonner tant qu'elle était loin, et voilà que cette personne, elle réapparaît. Pire que ça, elle va être votre pasteur. Est-ce qu'on peut mettre juste une petite vidéo concernant un frère du Bangladesh et... Waouh, il y en a qui vivent ça aujourd'hui. Il s'appelle donc Idroy Roy. Il parle de son fils. Ils l'ont attaché au sol, ils lui ont demandé de se mettre assis en position de croix, le bras étendu, et lui ont dit « Il paraît que Jésus est mort et ressuscité 3 jours après. On va voir si tu en fais autant. » Et le papa qui parle de son fils dit « Mon Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix, il a pu dire « Père, pardonne-leur. J'ai aussi pardonné à ceux qui ont tué mon fils. » Bon, eh bien, ça doit être quelque chose, hein. Ah, je sais pas, moi, si jamais il y avait quelqu'un qui touchait à Ethan ou qui touchait à Shaina, qu'un jour je le rencontre dans une rencontre pastorale. J'aurais pas tendance à l'accueillir tout de suite très bien, quoi. Alors vous imaginez, à Antioche, quand ils ont vu Barnabas qui ramenait l'intégriste extrémiste. Bon, paraît-il qu'il a changé, mais paraît-il, hein. Moi, je sais pas, peut-être qu'il fait semblant, hein. Peut-être que l'apôtre Paul, parce que là, il n'est pas apôtre encore, hein. Qu'est-ce qui nous dit qu'en fait, c'est pas un agent double Voici ce que la Bible dit, et c'est ma conclusion. Au verset 25, Barnabas se rendit alors à Tars pour y chercher Saul, et quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. Alors c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'il y a des mamans, il y a des papas, il y a des jeunes, il y a des tontons, il y a des tatas qui ont dit, même à l'apôtre, même à Saul de Tarse, on accorde le pardon. Et on est prêt à travailler ensemble. Parce que des fois, on accorde le pardon, mais bon, toi de ton côté, moi de mon côté, chacun chez soi, et puis on est mieux comme ça. Non, c'est on accorde le pardon de façon inconditionnelle. Et il croit ce que Barnabas a dit quand Barnabas leur a dit, l'apôtre Paul, cet homme-là, n'est plus Saul de Tarse. Oui, c'est le même bonhomme, mais il a d'autres valeurs. Et en fait, Barnabas va investir en Paul. Paul qui est le plus dur des durs, le plus pharisien des pharisiens. Circoncis le 8e jour, hébreu né d'hébreu, élevé par Gamaliel dans l'école rabbinique de Jérusalem. Mais Paul est un enfant de la grâce, racheté par la grâce, sauvé par grâce, appelé par grâce. Et en fait, cette mentalité, Barnabas, qui est un homme bienveillant, va croire en Paul. Je n'ai pas le temps de tout vous lire, mais il y en a d'autres qui n'y croyaient pas trop. Parce que quand l'apôtre Paul s'est converti, certains ont douté de sa conversion. Vous le voyez ça quand vous lisez au chapitre 9, au verset 20, lorsque Saul est... Voyons, n'est-ce pas celui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu exprès pour les arrêter et les ramener près des chefs des prêtres? Donc il y en a plein qui doutent, mais Barnabas ne doute pas. Barnabas, il dit, moi je veux faire confiance et je veux bénir quelqu'un qui ne mériterait pas. Si vous aimez seulement ceux qui sont aimables, de quoi vous reconnaîtra-t-on comme chrétien? Les gens de ce monde font pareil. Mais si vous aimez ceux qui vous persécutent, si vous bénissez vos ennemis, alors on devra dire il y a quelque chose qui, pour la première fois, on va devoir les appeler d'un nom bizarre. C'est le nom de celui qui a été différent de tous les autres prophètes et de tous les religieux qu'on a vus sur la terre. Celui qui a dit « Bénissez, ne maudissez pas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui dont Étienne est issu, celui dont l'apôtre Paul est issu, selon dont je suis, tu es issu. Jésus, le Christ. Alors tu prendras le nom de celui dont tu viens et on t'appellera chrétien. » En fonction de comment tu réagis avec ton conjoint, ta capacité à pardonner, ta capacité à aimer de façon inconditionnelle. Ah, tes enfants, c'est là qu'ils reconnaîtront que maman est chrétienne. Tes collègues, c'est là qu'ils reconnaîtront que ta bouche n'est pas comme la bouche de quelqu'un qui serait une religieuse, qui donnerait sa dîme, mais qui serait insupportable de ses ragots et de ses médisances. Vous voyez ? C'est pas sur ce que vous faites que vous serez jugé comme chrétien. C'est ce que vous êtes vis-à-vis des autres et comment vous aimez les autres. Et cette mentalité de la grâce va venir, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais à Antioche, il va se passer des choses extraordinaires. Ça va être la première église qui va, dès qu'ils vont entendre parler qu'il y a des problèmes financiers à Jérusalem, qu'il y a une famine parce qu'Agabus est venu, ils vont dire « Ok, combien il faut donner ?» Ils vont commencer à donner, c'est une église de la générosité. Et même un peu plus loin, je termine là, mais l'apôtre Paul a eu une expérience étonnante. 14 ans plus tard, c'est dans Galates 2, je suis remonté à Jérusalem en compagnie de Barnabas. J'avais aussi amené Tite avec moi. J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. J'ai exposé l'évangile que j'annonce parmi les non-juifs. Et je l'ai exposé en entretien particulier aux dirigeants les plus considérés. Or Tite, verset 3, mon compagnon était d'origine païenne. Et on ne l'avait même pas obligé à se soumettre au rite de la circoncision. Mais il y avait dans l'église de Jérusalem des durs de durs, des plus intégristes que chrétiens, qui ont dit « Quoi ? Ça, pas circoncis ? Non, 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 il n'a pas à venir avec nous prier, lui. » Et l'apôtre Paul va aller voir Pierre, va aller voir Jacques, va aller voir Jean, c'est au verset 9, « Ainsi Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Et nous sommes convenus ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous demandent seulement de se souvenir des pauvres, ce que nous avons bien pris soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part justement au repas commun avec les frères non-juifs. Ça veut dire qu'en gros, il mangeait du cochon, quoi. Et ça veut dire qu'il ne se prenait pas la tête avec tous les 613 règles de la halakha, la loi juive. Il était normal, il ne faisait pas de différence, pas de discrimination, il était exactement comme eux. Ils mangeaient ensemble. Mais, après leur venue, donc la venue de certains frères intégristes, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, d'autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même, qui s'était laissé entraîner par leur dissimulation, mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre et devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs. Un peu plus loin, il dit au verset 18, « Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. » Et au chapitre 3, au verset 5, il dit « Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez la bonne nouvelle que vous avez entendue ?» Verset 10, il est dit « En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sur le coup d'une malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement en ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi. » Et l'apôtre Paul, c'est étonnant, hein, lui le plus dur des durs, est devenu un fanatique de la grâce, de l'amour inconditionnel, du refus de dire « Les Antillais, les Africains, les Blancs ont raison. » De telle église est trop laxiste ou telle église est trop légaliste. Il s'est dit « Ce que je prêche, c'est Christ crucifié. » Christ qui change les cœurs, qui change les mentalités, et il n'y a rien d'autre comme accès au ciel si ce n'est le fait que la personne est une rencontre personnelle avec Dieu. Le reste, chacun respecte, l'un respecte le jour, l'autre ne le respecte pas, les deux font bien. Moi je suis là pour dire une seule chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le reste c'est de la déco, c'est des religions. Et wow, quand il a repris Pierre, ça montre que cet apôtre est devenu l'apôtre de la grâce. Pour tous les hommes ici dans cette salle qui aiment Jésus, vous êtes bien contents, non? Parce que sinon l'opération aurait été douloureuse. Pour toutes les femmes dans cette salle, vous pouvez bénir Dieu de ce qu'il y a un jour l'apôtre Paul se soit mis, parce qu'il avait la mentalité d'Antioche, de s'aimer les uns les autres. Il a dit non, on ne va pas retomber sous la loi. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Quand il parle aux Galates. Restez dans la grâce, restez dans la grâce, tout est grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. On va fermer les yeux ensemble. Seigneur, est-ce que j'ai gardé ce cœur-là? Ce cœur de pardon, ce cœur d'ouverture? Est-ce que les autres me reconnaissent comme un chrétien? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes des disciples, que vous êtes des Christ, des chrétiens. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'église d'Antioche, elle est merveilleuse. Son symbole, c'est la grâce. Son ADN, c'est l'amour. Alors qu'on ferme les yeux, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui juge ou est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui aime ? Est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui revendique tes droits ou est-ce que tu es connu comme quelqu'un qui aide les autres à accomplir leurs rêves dans la différence, dans la diversité? La lutte contre les discriminations n'a pas été inventée par Martin Luther King. La lutte contre les discriminations, elle existe dès Antioche. Toutes les églises aujourd'hui chrétiennes sont issues d'Antioche et devraient s'en rappeler. Peut-être tu dois pardonner à quelqu'un à qui tu as du mal ce matin. J'ai devant moi cette histoire d'une femme qui s'appelait Mehaza en Éthiopie il y a de cela 2 ans. qui a été brutalisée au point de perdre son enfant. Et un jour, elle et son mari ont décidé de rencontrer les agresseurs et leur ont dit « On vous pardonne. » J'ai devant moi aussi l'image de la petite Maria qui, en Colombie, elle est arrivée, elle traînait un jour dans la rue et son père était parti la chercher et s'est fait assassiner par des membres de la guérilla qui se sont trompés en lui tirant dessus. Elle s'en est voulu toute sa vie parce qu'elle se sentait responsable de la mort de son père. Puis elle avait gardé une colère dans son cœur. Et un jour, dans un camp, alors qu'elle faisait un camp avec d'autres jeunes, ils lui ont proposé quelque chose. Ils lui ont dit, ils ont proposé à tous les enfants qui étaient là, ils leur ont dit, il y a un coussin en forme de cœur, glissez dedans un bout de papier. La seule question sur laquelle on vous demande de répondre, c'est de quoi souhaiterait-il, de quoi souhaitez-vous que votre cœur soit rempli ? Et cette jeune fille a voulu remplir son cœur de pardon, alors elle a écrit sur le papier qu'elle a glissé dans le coussin « Je veux que ma vie soit remplie de pardon. » Lorsqu'ils ont accepté, Saul de Tarse, on les a appelés chrétiens. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Seigneur Jésus.
Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es
Alors que les personnes désignées pour la Sainte Cène s'approchent sur le devant, on va rester debout. On va reprendre ce chant. Et dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain. Et après avoir cassé le pain, il le donna à ses amis, aux disciples, en disant « Prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Après le souper, il prit la coupe et dit « Prenez cette coupe, c'est une coupe de bénédiction. Prenez-la et vous en boirez jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans la de mon Père. Mais chaque fois que vous prendrez ce pain, boirez cette coupe, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Je vous ai aimé d'un amour inconditionnel, je vous ai aimé alors que vous n'étiez pas aimable. Soyez des chrétiens, aimez de façon inconditionnelle. Alors qu'on s'examine nous-mêmes, on réalise bien que si tu prends ce pain, si tu prends ce vin, c'est que tu t'es engagé publiquement avec Dieu. Lorsque tu es debout, je ne te demande pas de te rasseoir. Je te dis, tu peux rester debout, mais si jamais dans ton cœur, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, simplement passe à ton voisin. On va le prendre ensemble, la Sainte Cène. Alors que les frères commencent à la distribuer sans plus tarder. On va garder juste les deux éléments ensemble dans la main. Et tout ce corps, on est plus de 200 ce matin. On a dû refuser beaucoup de monde qui arrivait en retard. Mais vous avez eu la chance d'avoir une place ici. On va essayer de le prendre ensemble et on va prendre les deux éléments. Alors que les frères commencent à distribuer. Et à la fin du chant, on la prendra ensemble.
Yeah.
Ensemble, prenons le pain qui symbolise son corps brisé pour nous à la croix.